Ce matin, au Radio-Journal, témoin d'un moment historique. L'éclipse solaire rassemble des millions de personnes un peu partout en Amérique du Nord. Malgré la fin de la pandémie, les pétrolières albertaines reçoivent encore des incitatifs et les policiers ontariens suspendus ont coûté 134 millions de dollars aux contribuables en 11 ans. Bonjour à tous, bon mardi, ici Marie-Christine Bouillon. Un événement rassembleur et unique, l'éclipse solaire totale d'hier après-midi a ébahi des millions de passionnés et de curieux du sud de l'Ontario et du Québec jusqu'en Atlantique. Un moment magique qui n'est pas près d'être oublié. Voici le reportage d'Éric Plouffe.
C'est ainsi que les dizaines de milliers de personnes rassemblées au parc Jean-Drapeau à Montréal ont exprimé leur émerveillement au moment où la Lune a complètement caché le soleil et que le ciel s'est assombri pendant quelques minutes, comme si on était à la tombée de la nuit. Un moment magique pour ces deux spectateurs, visiblement émus par le spectacle céleste.
C'était vraiment magnifique, c'était incroyable. Puis je sais que c'est un événement qui, une fois dans la vie en général, donc on a vraiment aimé, c'était vraiment nice.
Parfait, c'est bon, parfait, oui.
Le spectacle de l'éclipse solaire totale a pu être contemplé à plusieurs autres endroits au Québec, entre autres lors d'activités organisées pour les élèves dans des écoles primaires. Le premier ministre du Québec, François Legault, a tenu à se rendre dans une de celles-ci à Longueuil.
Bien, c'est une belle occasion de mettre l'emphase sur les sciences, puis de façon générale sur l'éducation, sur l'importance d'apprendre.
L'éclipse solaire totale a pu être contemplée également aux îles de la Madeleine. Des élèves du secondaire ont pu observer le phénomène astronomique de façon sécuritaire à la suite d'un cours spécial qui leur a été offert.
On est vraiment chanceux de pouvoir vivre seul.
On ne va pas pouvoir voir ça une autre fois.
Depuis des générations, les humains sont fascinés par ça.
C'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ça, puis nous autres, en plus, on est en plein milieu.
Éric Plouffe, Canada, Montréal.
En Colombie-Britannique, l'éclipse solaire n'était que partielle et le ciel nuageux, mais des centaines de personnes étaient quand même au rendez-vous. Benoît Ferradini s'est rendu au centre spatial McMillan à Vancouver.
Il était impossible de voir l'éclipse à l'extérieur, donc les spectateurs se sont retrouvés dans les amphithéâtres du centre spatial. Au menu, la diffusion de l'émission spéciale de la NASA sur l'éclipse. Plus de 300 spectateurs ont vécu les moments forts de cet événement unique, visible du Mexique jusqu'à Terre-Neuve. Parmi eux, beaucoup d'enfants, dont Cosmo, 8 ans.
They're cool because the sun, instead of being like orange and yellow, it's like black, which is this like a small yellow outlining, which is really cool.
Les éclipses sont cool, dit-il, parce que le soleil, au lieu d'être orange, est noir, entouré d'une petite bande jaune. En Colombie-Britannique, si on avait pu voir le ciel, le soleil aurait été juste couvert à 28% par la lune. D'où le nom d'éclipse partielle, loin de l'éclipse totale, visible dans ce qu'on a appelé la bande de totalité, qui s'étendait sur une bonne partie de l'est de l'Amérique du Nord. Michael Unger est le directeur de la programmation du centre spatial McMillan.
You may get to see one in your lifetime, so people just want to feel connected to that, even if they can't get to that path of totality, which is what we're seeing here today.
Les gens vont peut-être pouvoir voir une seule éclipse totale de leur vivant, explique-t-il. Ils veulent se sentir connectés, même s'ils ne sont pas dans la bande de totalité, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ici Benoît Ferradini, Radio-Canada, au centre spatial McMillan à Vancouver.
Le gouvernement fédéral va augmenter ses dépenses militaires de 73 milliards de dollars d'ici 20 ans, ce qui fera grimper le budget de la défense à 1,76% du PIB en 2030. C'est un progrès significatif, mais en dessous du 2% demandé par l'OTAN. Christian Noël.
Menace accrue de la Russie, effet perturbateur de la Chine, des dépenses militaires qui augmentent au Canada. 8 milliards supplémentaires sur 5 ans, pour des hélicoptères tactiques, des missiles longue portée et des avions de détection, avec un accent particulier sur la défense de l'Arctique. Le premier ministre Justin Trudeau.
L'importance stratégique de l'Arctique canadien est en train d'augmenter à cause des changements climatiques, alors on va le protéger.
Et pour améliorer le recrutement déficient au sein des forces, Ottawa promet d'augmenter le salaire et les avantages sociaux des soldats et de réviser ses normes de recrutement et de sécurité. Jagmeet Singh se préoccupe de la qualité des nouvelles recrues.
On doit être vigilant pour garantir une bonne qualité des gens dans notre force canadienne. On a des
opportunités d'amener plus de gens dans les forces armées, mais on ne va pas compromettre sur la sécurité.
Malgré ces investissements, le Canada n'atteindra pas la cible de dépenses militaires demandée par l'OTAN.
Je comprends qu'on continue de travailler pour atteindre ce 2 % et on va continuer de le faire avec d'autres dépenses qu'on annonce aujourd'hui.
Le conservateur Pierre Paulus.
Bien, le 2 % c'est un objectif, mais il faut que ça soit, soit bien fait. Je mets de l'argent pour de l'argent, c'est pas ça l'idée.
Le budget de la défense va presque doubler d'ici 5 ans, mais sera encore en dessous des attentes de nos partenaires comme l'OTAN. Justin Trudeau tente de satisfaire ses alliés internationaux tout en étant conscient que de nombreux Canadiens doivent en ce moment se serrer la ceinture. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa.
Les municipalités rurales de l'Alberta demandent au gouvernement de Daniel Smith de mettre fin aux allègements fiscaux accordés à l'industrie pétrolière et gazière durant la pandémie. Comme l'explique Tiffany Roquette, les conditions économiques ont bien changé depuis.
Le président de l'Association des municipalités rurales de l'Alberta, Paul McLaughlin, est en colère. Pour lui, le gouvernement albertain offre une pause fiscale au secteur pétrolier et gazier sur le dos des Albertains ruraux. Les allègements fiscaux n'ont aucun sens lorsque le prix du pétrole est élevé, dit-il. Depuis l'annonce des incitatifs en octobre 2020, le prix du baril de pétrole a doublé et le nombre de nouveaux forages a plus que triplé. En attendant, les municipalités doivent continuer à entretenir les infrastructures routières utilisées par l'industrie, souligne la préfète du comté de Clearview, Michelle Swanson. Le poids se reporte donc sur le reste des contribuables, déplore-t-elle. Selon les rapports budgétaires, les mesures incitatives ont au moins coûté 165 millions de dollars en revenus fiscaux. Le gouvernement provincial ne change toutefois pas de cap. Les municipalités pourront prélever des impôts sur les nouveaux puits et pipelines, mais pas avant janvier 2025. Et la taxe sur l'équipement de forage ne sera pas rétablie. Dans une réponse par courriel, le ministère fait valoir qu'une industrie stable et forte bénéficie aux municipalités par le biais d'emplois et d'activités économiques. Ici Tiffany Roquette, Radio-Canada, Calgary.
La suspension de policiers avec solde ont coûté cher aux contribuables de l'Ontario. Une enquête de CBC révèle que la facture s'élève à 134 millions de dollars depuis 11 ans. Les explications de Charles Lalande.
Ce sont nos collègues de CBC qui ont compilé les données et recensé plus de 453 suspensions. On parle d'allégations de toutes sortes. Conduite en état d'ivresse, fraude, trafic de drogue, violence conjugale, agression sexuelle et homicide involontaire. La durée médiane d'une suspension est d'un an et demi, mais certains cas sortent du lot, comme celui du sergent-détective James Christie, qui est suspendu par la police provinciale de l'Ontario depuis maintenant 9 ans. Il a été reconnu non coupable lors de son procès criminel pour fraude, mais il a plaidé coupable de conduite déshonorante. C'est donc dire que James Christie a empoché plus de 1,5 million de dollars en restant à la maison. Le syndicat des policiers de l'Ontario a pu consulter les données colligées par CBC. Le président Mark Baxter se demande s'il vaut vraiment la peine de suspendre autant de policiers, d'autant plus que près de la moitié des agents suspendus qui ont été reconnus coupables ont fini par reprendre le travail. Et seulement 10 % des policiers ont perdu leur emploi. L'enquête de CBC a aussi mis en lumière ce que plusieurs experts considèrent comme un problème, le manque de transparence. Parce que sans le travail des journalistes, le public n'aurait jamais su le montant payé par les contribuables pour les suspensions de policiers. Ici Charles Lalande, Radio-Canada, Ottawa.
Le Hamas se penche sur un projet d'accord qui prévoit une trêve de 6 semaines dans la bande de Gaza et la libération de dizaines d'otages israéliens. Mais malgré les négociations en cours, le premier ministre Netanyahou dit avoir fixé une date pour l'assaut sur Rafah. Voici les précisions de Fanny Sanson.
Après avoir laissé miroiter pendant 10 semaines une offensive sur Rafah, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé qu'une date avait été fixée. Benjamin Netanyahou dit avoir pris connaissance du plan détaillé des pourparlers en cours au Caire pour une trêve, mais que les objectifs d'Israël demeurent les mêmes, libérer tous les otages et la victoire complète sur le Hamas, une victoire qui passe, selon lui, par l'élimination des bataillons terroristes et donc par une offensive. Il n'a pas préciser quand aurait lieu cette offensive redoutée par Washington, qui a réitéré son opposition. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Matthew Miller, soutient que les États-Unis ont été clairs avec le gouvernement israélien. Une offensive sur Rafah aurait des conséquences extrêmement néfastes pour près de 2,5 millions de Palestiniens et aussi sur la sécurité d'Israël. Ici Fanny Sanson, Radio-Canada, Montréal.
Et en terminant, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un jugement historique en condamnant pour la première fois un État pour inaction climatique. La Cour a donné raison à 2500 femmes qui accusaient la Suisse de n'avoir rien fait pour atténuer les effets des changements climatiques. Voilà, c'était le Radio-Journal de Radio-Canada.